Radio Okapi.
Le journal Grâce Hamzati.
Après environ trois semaines de discussions entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 à Doha, au Qatar, aucune avancée significative n'a été obtenue. Par conséquent, la délégation rebelle, dirigée par le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimwa, a quitté Doha hier pour retourner à Goma. Les sinistrés des pluies du 4 au 5 avril en cours à Kinshasa, qui se trouvaient dans des écoles, sont relogés ailleurs. Certains ont été transférés au stade Tata Raphaël, d'autres au terrain municipal de Bandalungwa. Dans quelles conditions ces personnes vivent-elles? Reportage à suivre dans ce journal. Décès ce mardi aux États-Unis de l'écrivain et philosophe Yves Moudimbe-Yoka. Nous en parlons avec Christian Kunda Mutoki, professeur à la faculté des lettres de l'université de Lubumbashi. Selon lui, le professeur Yves Moudimbe a énormément contribué à la littérature et à la philosophie. Il est notre invité. Bonjour à tous. Coup d'arrêt dans les discussions entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 à Doha, au Qatar. Après près de trois semaines d'échanges plutôt infructueux, ponctués par quelques séances directes entre les deux délégations, aucune avancée significative n'a été enregistrée. La délégation du mouvement rebelle, conduite par son coordonnateur adjoint Bertrand Bissimwa, a quitté Doha ce mardi pour regagner la ville de Goma où l'AFC M23 a établi son quartier général depuis plusieurs semaines. Selon des sources proches des négociations, les discussions ont achoppé sur des profondes divergences, notamment autour du projet de communiqué conjoint censé poser les bases d'un dialogue constructif entre les deux camps. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
Selon nos sources, les représentants du gouvernement congolais auraient exigé que le communiqué de Doha mentionne explicitement qu'il faisait suite à la rencontre entre les présidents Tshisekedi et Kagame. L'AFC M23 aurait rejeté cette exigence, estimant que les différends entre Kinshasa et Kigali ne les concernaient pas, leur mouvement ayant ses propres revendications. Un autre point de désaccord, les émissaires du gouvernement auraient voulu que les deux parties s'engagent à sensibiliser les groupes armés à déposer les armes. L'AFC M23 s'y serait opposé, accusant Kinshasa de collaborer avec plusieurs de ces mêmes groupes. La rébellion aurait aussi exigé les retraits des FRDC et Wazalendo de Walikale, réoccupés récemment par ses forces après les retraits des rebelles, lesquels considèrent cela comme un geste de bonne foi. Mais le principal point de blocage resterait le préalable posé par les rebelles, transmis à la médiation qatari avant les négociations. L'AFC M23 accuse le gouvernement de les avoir ignorés, y voyant un signe de mauvaise foi. En fait, la rébellion conditionnerait maintenant toute reprise des pourparlers, notamment à la désignation par Kinshasa, je cite, des délégués capables de prendre des décisions claires et non des simples experts au mandat flou. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, la situation est de nouveau inquiétante. C'est mercredi sur l'axe routier Kibati-Kibua, dans les groupements Luberike. C'est dans le territoire de Walikale. Selon les sources civiles locales, cette zone a été le théâtre des affrontements dans la soirée d'hier mardi, opposant les rebelles de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo. Pour ces sources, ces nouveaux combats interviennent après plusieurs jours de trêve observés sur cet axe, où les rebelles étaient censés retirer leurs troupes il y a plusieurs semaines déjà. Des explications avec vous, Ronelin Tibunera.
Ces affrontements ont eu lieu dans les villages Mikumbi et Miba à environ 6 km de Kibati en groupement Luberike, indiquent certaines sources de la société civile locale. Pour elles, le combattant Wazalendo aurait réagi à une tentative d'avancer des rebelles du M23 vers le centre de Kibua à environ 30 km de Kibati en direction du chef-lieu du territoire de Walikale. Si la calmie s'observait ce mercredi dans la zone, nos sources estiment que la situation y est toujours volatile. Mikumbi, Miba, voire même Kachebere, à la limite avec les territoires voisins des Massissi, ont été vidés d'une partie de leur population à la suite des détonations d'armes lourdes et légères pendant ces combats. Nos sources redoutent un plan des rebelles du M23 de vouloir reconquérir Walikale, où ils ont retiré leurs troupes depuis mi-mars dernier en exécution de leur décision de repositionnement. Les plans qui se justifieraient selon nos sources par un renforcement en armes et hommes des troupes des positions AFC M23 dans cette partie du groupement de Luberike.
Merci à vous, Ronéline Tibonera. Et dans la province du Maniema, la population de la ville de Kindu vit ces jours la peur au ventre. L'insécurité refait surface. Difficile de passer une nuit sans qu'on enregistre des cas de vol et viol. Très consternés, les députés provinciaux de Kindu appellent l'autorité provinciale et tous les membres du conseil provincial de sécurité à s'impliquer afin de rétablir la sécurité sur toute l'étendue de la ville aux besoins de la province. On écoute les députés Abel Tchoma Florent au micro de Florence Kizalunga.
Depuis un certain temps, il y a une recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kindu parce qu'il ne se passe pas un jour ou deux jours sans qu'on ne puisse constater des cas de vol à main armée, de tuerie et même des viols parce qu'on est en train de violer même les femmes enceintes et même les enfants. Et donc c'est une situation qui nous touche et face à cette situation, nous sommes allés voir l'autorité provinciale. Nous lui avons présenté les cris d'alarme de la population pour qu'il puisse trouver des solutions par rapport à cette situation. Nous demandons à l'autorité provinciale et aux services de sécurité de pouvoir multiplier des stratégies, des efforts pour que l'on puisse arrêter cette insécurité qui règne dans la ville. Nous pensons que cette situation peut être due au fait qu'il y a un moment où les prisonniers ont reçu la grâce présidentielle. Certains bandits ont été libérés par grâce présidentielle, mais nous voulons aussi à ce que la population puisse s'impliquer pour pouvoir dénoncer tous les bandits au service de sécurité pour que la justice puisse s'en occuper.
Nous l'avons dit dans les titres, depuis le week-end dernier, les sinistrés des pluies de Kinshasa qui se trouvaient dans des écoles sont relogés ailleurs. C'est le cas notamment de ceux de l'Institut Lumumba à Limete, ainsi que des Liti Kitome Saki Senso. Certains ont été transférés au stade Tata Raphaël, d'autres au terrain municipal de Bandalungwa. Dans quelles conditions ces personnes sont-elles installées et comment se passe leur prise en charge? Kaki Akewa et Nancy Atambo nous parlent de la situation de ceux qui sont relogés à proximité de la maison communale de Bandalungwa. Suivez.
Le terrain municipal de Bandalungwa va au finish accueillir près de 4000 sinistrés. À notre passage, Patricien Gongo, ministre provincial de la Santé, est venu se rendre compte de la situation de ceux qui y sont déjà. Il explique comment cela s'organise.
Les tentes ici sont encore en train d'être montées pour que nous puissions recevoir plus de 3000 personnes. Vous allez trouver un centre de santé avancé. Des cas complexes, on les réfère aux établissements de soins de santé et l'hôpital Kalemelembe pour les enfants.
Malgré les conditions difficiles, plusieurs sinistrés expriment leur soulagement de recevoir de l'aide. Toutefois, il ne manque pas de formules de plaintes.
La nourriture arrive, mais il y avait un tel désordre dans la distribution que certains ont manqué. Il a fallu que les femmes s'énervent pour qu'on arrive à la solution actuelle de la répartition par local.
Patricien Gongo affirme que les autorités sont à l'écoute. C'est ainsi que des améliorations ont été observées quant à la distribution de biens désormais confiés au chef des quartiers.
Il y a quand même des fraudeurs. Nous avons mis un système de détecter ces fraudeurs-là par la communauté. Nous les organisons par quartier. Ce sont des chefs des quartiers qui viennent prendre la nourriture pour les donner à ses administrés.
Le besoin sont nombreux, c'est ainsi que certaines structures viennent en renfort, cas notamment de certaines ONG.
Nord Kivu, la société civile littérateur de Lubero alerte sur la montée des cas de malnutrition chez les enfants et femmes de Njapanda, une localité de la zone de santé de Biena. Selon cette structure citoyenne, 10 nouveaux cas sont signalés par mois contre 4 il y a quelques mois. Une augmentation qui est liée, selon elle, au déplacement de la population à cause des affrontements impliquant les FARDC, les rebelles du M23 et les ADF. Mervé Mindo Kavu, le nutritionniste de cette zone de santé, plaide pour l'intervention urgente des humanitaires dans cet extrait sélectionné par André Kitengi.
Auparavant, on trouvait à peine 4 par mois, mais ces derniers temps, nous sommes même vers 10 cas par mois. Il y a des problèmes liés à la nutrition, des problèmes liés au mouvement de déplacement de la population qui vivait dans des aires de santé voisines, mais qui n'ont plus accès à leurs champs. D'abord, que les parents puissent chaque fois amener les enfants à la CPS, afin que nous puissions dépister ces cas cachés dans la communauté qui souffre la malnutrition. Il y a ces personnes visiteurs dans l'aire de santé qui ne savent où trouver à manger, alors préciser comment nourrir les enfants, c'est toutefois difficile. Nous appelons aux humanitaires de venir aux rescousses de ces personnes démunies des moyens afin de pallier à ce fléau de la malnutrition qui bat record dans l'ère de santé. Nous recommandons aux écoles qui organisent l'option nutrition de nous aider à chaque fois à déployer les élèves pour la recherche active. Comme ça, ces cas seront chaque fois orientés vers la structure compétente et puis nous ferons sélection des cas qui seront valides et qui ne seront pas valides.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'Institut congolais des recherches sur la politique, la gouvernance et la violence, et Bouteli, membre du consortium Le Congo n'est pas à vendre, a organisé ce mardi à Kinshasa un forum sur la corruption électorale en RDC. De nombreux participants à cette rencontre se sont accordés sur la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante CENI, une thèse soutenue par les députés honoraires Juvenal Munubo, invité à ses assises. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Les acteurs de la société civile et de nombreux autres participants à ces forums sont d'avis que la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante va épargner cette institution de l'interférence politique et améliorer les élections à venir. Dans son rapport, l'Institut de recherche Ebouteli préconise également une rotation au poste de président de la centrale électorale entre confessions religieuses suivant l'ordre ci-après: Église catholique, Église protestante, Église kimbanguiste, l'Islam et la communauté des églises des. Cette organisation citoyenne relève que la crise de légitimité souvent évoquée en RDC résulte en partie du fait que la corruption électorale est également pratiquée à grande échelle. Une année et demie après les dernières élections présidentielles et législatives, ces rapports examinent les pratiques de corruption centralisée et décentralisée qui accentuent la crise de légitimité et les déficits de redevabilité politique au niveau non seulement du pouvoir central, mais également au niveau des provinces. Pour sa part, le député honoraire Juvenal Munubo et candidat malheureux à la dernière législature estime que sa réforme, ça ne sert à rien d'aller aux élections en 2028.
Blaise Ndongala Mayanda. Parlons du procès Bukangalonzo. La population a besoin de savoir comment l'argent du contribuable a été utilisé pour le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et la justice doit établir la lumière. C'est en ces termes que le ministère public requiert de retenir le défaut à l'égard des trois prévenus absents à l'audience publique de ce mercredi devant la Cour constitutionnelle sur la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Selon le parquet, la Cour doit éviter de tomber dans le déni de justice, estimant que tous les prévenus ont été régulièrement atteints pour se présenter à cette audience et qu'ils se moquent simplement de cette juridiction. Le procureur général près la Cour demande la poursuite normale des audiences. Rappelons que Matata Ponyomapon a écrit au président de la Cour pour lui signifier son refus de comparaître en s'appuyant sur la position de l'Assemblée nationale dont il fait partie. Quant à ses co-accusés dans cette affaire des détournements présumés de plusieurs millions de dollars, en l'occurrence Deogracias Mutombo et Christo Grobler, ils se sont excusés respectivement pour un déplacement à l'étranger, pour des soins et pour avoir connu un malaise. L'audience est en cours et on attend la décision de la Cour. Le professeur Yves Moudimbeyoka est mort ce mardi aux États-Unis. Il a enseigné dans de nombreuses universités du monde et du pays, dont l'université de Lubumbashi. Né en 1941 à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, Yves Moudimbe est auteur des romans, des recueils de poésie et des mémoires. À son actif, on retient Le Bel Immonde, L'invention de l'Afrique ou Entre les eaux. L'un de ses étudiants, le professeur émérite Witt Mulongo, estime que la RDC et le monde ont perdu un grand écrivain et philosophe dont les œuvres continueront à nourrir les esprits. Le professeur Witt Mulongo est joint par Jean Gandou.
C'est un personnage littéraire et même philosophique de très haut rang dans notre pays. Je crois que la République démocratique du Congo et principalement le monde culturel et spécifiquement littéraire retiendra de Yves Moudimbe que ça a été l'un des premiers à instaurer ce que nous avons appelé la rupture dans l'écriture littéraire congolaise avec son célèbre roman Entre les eaux qui sera suivi plus tard par L'écart et tant d'autres. C'est très notable parce que son écriture va instituer l'équivalent de ce que nous appellerons en littérature l'écriture du nouveau roman. Peut-être faut-il que je signale aussi que les trois dernières années ici, il a fait un don de sa bibliothèque contenant plus d'un millier de livres à l'université de Lubumbashi, qui en est très fier aujourd'hui. C'est un geste notable qui ne s'est jamais produit de la part de nos dévancier. Yoka nous quitte, mais il ne nous a pas quitté parce que son œuvre va continuer à nous parler.
Célébration, c'est mardi 22 avril de la Journée mondiale de la Terre autour du thème « Notre pouvoir, notre planète ». Pour le professeur Eustache Kidi Kwadi, docteur en sciences de l'environnement, cette journée est importante car elle nous rappelle qu'il est important de préserver les ressources qui se trouvent sur la planète Terre, notamment l'air, le sol, l'eau, car sans ces éléments, la vie est impossible sur Terre. Le professeur Eustache Kidi Kwadi est joint par Gloria Lutola.
C'est en 1970. On avait célébré cette journée de la paix aux États-Unis. Et aujourd'hui, on continue toujours à célébrer cette journée. Une journée importante. Notre pouvoir, notre planète, parce que un être vivant a besoin de tout ce qui est comme des composants de l'environnement. Vous avez l'air, le sol, vous avez l'eau et d'autres êtres vivants que nous connaissons. Tous ces composants jouent le rôle important dans notre vie. C'est pourquoi il est important de célébrer cette journée. Il y a beaucoup de planètes, mais la planète que nous vivons, c'est la planète Terre. Il faut accorder l'importance pour cette planète. Nous devons célébrer la journée pour expliquer à la communauté quels sont les facteurs ou les éléments que nous trouvons sur la planète Terre qui permettent de maintenir notre vie sur cette planète.
Actualité internationale.
Le programme alimentaire mondial PAM a déploré mardi 22 avril devoir interrompre en main l'aide en Éthiopie pour 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition. Cette décision intervient en raison des coupes dans l'aide internationale alors que la situation humanitaire se détériore dans le pays.
L'invité.
C'est Christian Kundamutoki, professeur à la faculté des lettres de l'université de Lubumbashi. En évoquant la disparition du professeur Yves Moudimbe, il souligne que ce dernier a énormément contribué à la littérature et à la philosophie. Son héritage est immense, tant dans le domaine littéraire qu'à l'université de Lubumbashi, où il a enseigné pendant de nombreuses années. Christian Kundamutoki s'entretient avec Jean Gandou.
Professeur Christian Kunda, bonjour.
Bonjour.
Le professeur Valentin Moudimbe est décédé ce mardi aux États-Unis. Quel souvenir gardez-vous de lui?
Moudimbe est un linguiste romaniste. En tant que tel, il a produit beaucoup de gens de valeur à l'université de Lubumbashi, à l'université de Kinshasa, à l'université de Californie, en France et même en Chine. Et là, aux États-Unis, il a évolué dans un département qu'on a appelé le département des idées. C'est le département de philosophie en réalité. Quand on parle de lui aux États-Unis, on dit que c'est un philosophe. Quand vous êtes sous d'autrichiers, on vous dit que c'est un grand littéraire. Nous le connaissons comme linguiste au départ, mais sous le continent africain, il est traité d'historien et de sociologue. C'est pour vous dire que dans cette complexité, c'est un personnage aguerri, un personnage à 100% scientifique et académique qui a parlé de tout, mais à partir de sa posture, de ce qu'il a été, homme de lettres d'abord, et je vous rappelle que c'est l'ancien doyen de la faculté des lettres et philosophie, mais il avait des assises aussi au département des lettres classiques, aujourd'hui qu'on appelle celui de lettres et civilisation latine.
Professeur, au regard de toute cette complexité, qu'est-ce qui a fait donc sa force?
Sur le plan de l'enseignement, c'est quelqu'un qui a su transmettre la matière et qui a formé les hommes de valeur avec en tête Julien Kilangamusini, les grands poètes, les grands écrivains, recteur honoraire de l'Université Lubumbashi. Mais la force de Moudimbe, c'est de produire des œuvres durables, de valeur, de grande qualité, des œuvres qui sont consommées à travers le monde.
Quelles sont ces publications qui vous ont le plus marqué et qui ont contribué à sa notoriété?
Elles sont nombreuses, mais je parle, moi, de la publication qui m'a beaucoup plus marqué, c'est Entre les eaux. Un livre qui vous rappelle le classique, qui vous rappelle les langues romanes, qui vous enseigne la belle langue française et finalement qui vous rappelle la culture africaine, qui vous enseigne la culture congolaise, mais au-delà de tout, la culture mondiale.
Moudimbe était-il seulement un écrivain ou un simple penseur?
Non, pas un simple penseur. Il était tout ça. Grand écrivain, je vous rappelle que je n'ai pas une classification tout à fait, permettez-moi, la tautologie classique. Moudimbe est considéré dans certaines écoles de pensée et de littérature comme le plus grand romancier congolais. Il s'agit ici de ce qu'on appelle la littérature classique d'expression française de notre pays. Quand vous êtes sur le continent, il est cité parmi les grands romanciers. Et donc, c'est quelqu'un qui apporte sous le plan de la littérature une contribution inestimable à l'humanité, à l'Afrique et à son pays.
Peut-on le considérer comme étant un sphinx de la littérature?
Ce n'est pas de le dire. Les grands noms en littérature commencent par les Moudimbe et les Belisembe. Les Belisembe, c'est en poésie, mais le roman porte le nom d'abord et avant tout de Moudimbe, même s'il y a eu d'autres contemporains contemporains de son époque. Je ne voudrais pas ici tout de suite les citer. On parle de Modimbe. Mais Modimbe, il est considéré comme le tout grand, le plus grand romancier.
Et quel héritage a-t-il laissé à la littérature congolaise en général et à l'université de Lubumbashi en particulier où il a évolué assez longtemps?
En ce qui concerne la littérature d'expression française, on partira de Modimbe en ce qui concerne la narration, les œuvres narratives. L'œuvre de Modimbe échappe au temps et à l'espace. C'est une contribution inestimable, c'est un grand héritage qui va être enseigné pendant longtemps, mais sur le plan de l'enseignement, parce qu'il a apporté aussi beaucoup, ses enseignements, je crois qu'ils vont être portés par ses disciples, qui pourraient peut-être même aussi être publiés, mais lui-même de son vivant, je crois qu'il n'a pas laissé moins de 3000 livres. Quelques années ici avant de mourir, il a légué toute sa bibliothèque à l'université de Lubumbashi. La bibliothèque est partie des États-Unis pour Lubumbashi. Et quand vous allez à ce qu'on appelle la bibliothèque du cinquantenaire, il y a tout un rayon sacré, toute une bibliothèque, on va dire, dans une grande bibliothèque, Modimbe. Consultez les livres de Modimbe, et même ceux qui n'ont pas écrit les livres, vous voyez là-dedans qu'il les a annotés. Ça veut dire qu'il a lu lui-même plus de 8000 livres qu'il a légués à l'université de Lubumbashi. Mais tous les livres, les 8000, c'est un héritage aussi. Il a envoyé ça à l'université de Lubumbashi. Les jeunes, les scientifiques, les académiciens peuvent aller consulter ce que Modimbe a laissé comme héritage sur les plans du savoir et de la connaissance à l'université de Lubumbashi.
Professeur Christian Kundamutoki, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité qui était interrogé par Jean Gando. Par ici prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota-Tuveta sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Les données Nyangasa wa Nyangasa assurer la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi à la présentation. Merci.